Madame Dauphinet.
Bonjour.
Ah, le baillon. Ça, les libéraux étaient devenus des experts, d'ailleurs, dans le baillon, c'est-à-dire de faire adopter, de passer ça à l'Assemblée nationale, surtout en fin de session, parce que là, l'opposition fait tout pour que ça traîne. Mais on serait moins résistant, là. On sent ça chez la population, alors qu'on l'a été pas mal plus par le passé, là.
Oui, parce que là, on parle quand même de deux projets de loi quand même assez importants, celui sur l'immigration et l'autre sur la laïcité.
Oui.
Donc, on aurait peut-être souhaité que ça finisse pas par un baillon. Donc, on retiendra que les partis d'opposition n'ont pas collaboré, alors qu'ils savent très bien, de par les sondages qui ont été faits, qu'il y a à peu près 70 % de la population québécoise qui appuie ces projets de loi, là, surtout celui sur la laïcité. Donc, on aurait souhaité que ça ne se finisse pas au baillon. Puis là, on a dit on va prolonger la fin de la session parlementaire de 2 jours en fin de semaine pour pouvoir le passer sous le baillon. Je ne sais pas si tu te rappelles, Martin, mais la loi 101 en 1977, qui était quand même une loi très importante aussi, hein, qui définissait la place du français en milieu de travail, dans l'enseignement, les tribunaux, etc., l'affichage. Donc, cette année-là, pour pouvoir, le gouvernement de René Lévesque, pour pouvoir passer cette loi-là, écoute, ils ont prolongé la session jusqu'au 26 août. Là, maintenant,
on est dans... travaillé tout l'été, là.
Ben oui, c'est ça. Au lieu de passer un baillon, en tout cas, j'imagine que ça devait être disponible, les baillons, à cette époque-là. Donc, aujourd'hui, j'imagine qu'on est un petit peu plus aussi dans la conciliation travail-famille. Donc, il ne faut pas trop allonger la session parlementaire. Mais,
Et que de toute façon, on passe au vote, puis ça va passer parce que les caquistes sont majoritaires.
Oui.
À quelque part, là.
Puis, j'ai pas suivi de près, mais les membres du PQ aussi devraient quand même supporter ce projet de loi-là, eux qui avaient mis de l'avant le projet de la charte de la laïcité.
Oui.
Donc,
C'est un phénomène, ça, à l'Assemblée nationale, l'opposition. C'est un phénomène, là. Puis on le voit aussi avec la CAQ. Les libéraux puis les péquistes ont fait de même par le passé. C'est-à-dire que quand t'es d'un côté de la Chambre à l'opposition, t'arrives au pouvoir sur les mêmes critiques que tu faisais quand t'étais dans l'opposition, t'agis pas plus. Et à un moment donné...
C'est un phénomène qu'on remarque au provincial, au fédéral. C'est pour ça que moi, j'en voulais pas de ça au municipal. Et
avec
que je disais,
parties.
Est-ce que c'est nécessaire d'avoir des partis? Non, comme indépendant, normalement, tu te retrouves pas avec ce phénomène-là. Tu appuies les projets que tu trouves pertinents pour la population, puis les autres, tu les décris, effectivement.
Et là, avec l'histoire des signes religieux, là, parce que là, on a dérapé, pas pire, cette semaine, là, quand on était rendu à parler des jaunes de mariage. Là.
Oui, c'est ça. Ça me fait dire un petit peu que quand quelqu'un veut pas comprendre, là, t'as beau y démontrer, faire toutes les démonstrations que tu voudras, la personne est bloquée, est boquée, elle veut pas comprendre.
Ouais.
Donc, c'est sûr que ça reste quand même un peu flou. Hein. On parle de vêtements, symboles, bijoux, parures, accessoires, couvre-chef. Mais on le sait beaucoup que ce sont les choses plus ostentatoires là, qui dérangent, comme le voile, le kirpa, le kirpin, etc.
La croix...
Oui, une croix trop.
La croix, si elle est évidente, à un moment donné, c'est sûr que c'est un signe religieux.
C'est ça. Mais pour beaucoup de Québécois, là, pour certains, des fois, ça peut être un bijou que ta mère portait puis auquel tu tiens. Et il n'y a pas nécessairement une connotation religieuse. Des croix, on en a tellement eu dans notre environnement que... c'est le pendentif que ta mère portait.
Oui.
Maintenant, elle est décédée, tu souhaites continuer à le porter.
Oui.
De toute manière, il y a toujours une façon de porter ses bijoux de façon cachée. Là,
et on s'est entendu que ça risque d'être des cas isolés.
Oui, mais on va en entendre des vertes puis des pas mûres. Faut se préparer à ça.
C'est sûr, mais bon. Oui. Aussi, la laïcité, tu voulais aller plus loin là-dessus.
Oui, c'est ça. Donc, si on dit qu'on veut une société laïque, moi, je me posais la question, est-ce qu'on ne devrait pas aller jusqu'au bout, puis l'année prochaine, peut-être mettre fin aux exemptions de taxes municipales pour les lieux de culte? Parce que là aussi, on connaît des débordements importants.
L'exagération, c'est assez incroyable, la quantité de... phénomènes religieux qui ont des exemptions de taxes municipales.
Oui, je t'en donne un très bon dans notre région, la communauté des SCN.
Ben oui.
SCN, en tout cas.
Essénien.
Essénien, merci.
Oui, à Cochérie-Tune.
Exactement.
Ben oui, qu'on connaît très bien.
Oui, sur ce domaine-là de 41 hectares, t'as 20 maisons puis 10 appartements. Donc, des gens qui, pour se loger...
Ils disent que c'est des églises.
Oui, que ça appartient à l'église. Ben mais oui. peu importe, reste que ce sont des citoyens qui se logent sans payer de taxes. Là, c'est pas l'endroit où on se rassemble pour célébrer le culte.
Mais c'est pour ça que c'est devant les tribunaux
aussi. Aimerais-tu ça, toi, Martin, te sauver de tes taxes municipales?
Ben oui, mais tu savais pas que chez nous, c'est un temple.
Non, mais... avec les gens qui se regroupent, là, on parle beaucoup du vieillissement, que les gens vont se regrouper entre amis pour vieillir.
Ben oui.
Ben, les gens vont se créer une religion bidon, puis ils vont demander des exemptions de taxes. Tu sais,
Interfois à North Hadley, là, c'est la même chose, ils ont une exemption de taxes.
OK, mais est-ce que ça couvre aussi les bâtiments résidentiels? Moi, c'est ça qui m'a fait sursauter chez les Essénois.
Oui.
Et c'est un culte où il n'y a même pas 1000 personnes qui le pratiquent dans le monde. Dans la région, ils sont une centaine, donc c'est facile de se monter de quoi. Et je sais pas si tu as vu aux États-Unis, récemment, pas très loin d'ici, au Massachusetts, à Salem, il y a le temple satanique qui a été maintenant reconnu comme une religion officielle.
Oui.
Et eux aussi bénéficient des exemptions fiscales que tout culte religieux...
Et ça, cette loi-là, parce qu'il faut remonter le temps où il y avait cette proximité entre le politique et l'Église, et d'ailleurs tout part de l'Église catholique principalement, concernant l'exemption de taxes pour l'Église, le presbytère, en tout cas pour mal toutes les propriétés.
Et puisqu'à peu près tous les citoyens étaient religieux aussi, dans le fond, ça revenait à...
Ouais.
Ce que tu n'as pas ce que tu prends pas de la main droite, tu n'as pas à le donner de la main gauche. Mais maintenant, on n'en est plus là. Mmh. Et aussi, il faut faire la différence entre la portion résidentielle et la portion de culte.
Absolument.
Puis, c'est certain que le gouvernement, il prend une partie de l'argent qu'il ramasse dans nos poches pour en payer une partie aux villes, là, ce qu'on appelle les enlieux de taxes.
Oui.
Mais ça couvre pas tout. Puis, ça donne place à des débordements comme ça.
Oui.
Donc,
et pour certaines municipalités, ça représente des comptes de taxes quand même très importants. Dans certains cas, là.
Oui, et toujours une question d'équité.
C'est ça.
Traiter tout le monde de la même façon.
Ouais.
Si on est une société laïque, ben le traitement dépend pas de ta religion. Là,
on s'assume. On est laïque ou on ne l'est pas.
Exact.
Et un mot aussi sur ce qu'on entendait ces dernières heures concernant la détresse psychologique chez les avocats. Puis ça met en relief aussi ce qu'on a entendu dans les derniers mois pour plusieurs métiers ou plusieurs professions où ce qu'on sent cette détresse psychologique.
Effectivement. Donc, hier, l'étude qui a été faite, entre autres, par une prof de l'Université de Sherbrooke, Nathalie Cadieux, pour le compte du Barreau du Québec, soulevait qu'il y avait 40 % des avocats qui étaient affectés par la détresse psychologique. Puis là, ils cherchaient à voir les déterminants de cette détresse-là. Ils ont vu que les plus jeunes dans la profession, chez eux, c'était plus marqué, certains types de pratiques. Mais c'est ça, Martin, comme tu dis, depuis quelque temps, on a entendu, encore ce matin, on disait les paramédics.
Oui.
Les paramédics, situation de stress, eux, c'est parce que je crois qu'ils... en tout cas, au niveau du fonctionnement là, des corps
c'est
de travail.
Des horaires de faction. Là.
Effectivement, là, c'est ça qui posait problème.
Ouais.
On a entendu récemment les travailleurs sociaux. C'est sûr qu'eux, ils voient des choses pas toujours faciles à digérer.
Ils ont besoin de soutien psychologique.
Exact. Les infirmières, on a vu. Hum? On a même vu les médecins, 26 % qui disaient ressentir un épuisement.
Ouais.
On a vu aussi les étudiants en médecine. On a même vu les fonctionnaires municipaux à Québec.
Hum?
Qui souffrait à 33 % là, une hausse de 33 % des maladies.
Oui.
Les professeurs, écoute...
Mais tu sais, Hélène, ça dépend toujours de la façon que tu mènes ton étude. Ça dépend toujours du cadre que tu donnes à ce qu'on appelle la détresse psychologique. Parce que si tu as le cadre très large, tu peux inclure énormément de situations. Puis je veux en rien banaliser... ce que vivent, entre autres, des avocats ou autres professionnels dans différents domaines ou métiers. Mais il reste que quand on fait ce type d'études, c'est qu'est-ce qu'on inclut dans tout ça, là?
C'est ça. Habituellement, normalement, une étude doit utiliser des définitions qui sont reconnues, comme par exemple l'Institut Douglas.
Oh, oui.
Ils en ont une pour l'épuisement professionnel.
Oui.
Et c'est certain qu'il y a peut-être une part aussi de perception de la part
c'est
des
ça.
Gens. Tu sais, quand on te dit, est-ce que il y a des conditions de travail qui génèrent du stress chez toi, chez certains, ça va en générer, chez d'autres, non,
oui.
etc. Donc, il y a une partie appréciation. Comme tu dis, c'est sûr, c'est pas pour banaliser ça, mais là, je me disais, écoute, s'il y en a dans toutes les sphères professionnelles, est-ce que le problème est tant lié à la profession ou il est lié à autre chose? Puis là, je fouillais, puis j'ai vu qu'au mois d'avril, il y a Léger, la compagnie de sondage, qui a fait une étude, puis ça disait 40% des Québécois démontraient là, des signes d'épuisement professionnel. Donc, 40%, tu vois, on voyait, c'est la portion qu'on observait chez les avocats, chez les médecins, c'est un peu plus bas.
Ouais.
Et
que c'est sociétal, finalement.
Ben, c'est un petit peu ça.
C'est un mal de société.
C'est ça, mais il disait qu'on le ressentait moins que chez les Canadiens. Dans le reste du Canada, c'était 57%.
Ah.
Mais chez les jeunes, les 18-34 ans, 66%. Mais c'est sûr que eux, les jeunes, ils sont à une croisée des chemins.
Ah ben oui.
Faut que tu essayes de faire ton avenir professionnel, ton avenir amoureux, etc. Ça
c'est
génère
sûr.
Beaucoup de stress.
C'est sûr.
Mais oui, mais on est une...
Comme on disait hier, entre du stress et de l'anxiété, puis que ça devienne maladif, il y a quand même un écart.
Oui. Mais des fois, je me dis, Martin, je parle avec mes tantes, tout ça, quand j'avais mes grands-parents, puis ils me contaient qu'à une époque, eux, quand ils allaient faire le train, parce que je viens d'une famille d'agriculteurs, écoute, ils mettaient l'enfant dans son berceau, là, dans sa basinette, là, qui était normalement sécuritaire, plus aux normes d'aujourd'hui, mais dans le temps, oui. Puis, ils mettaient l'enfant là, puis ils allaient faire le train. Ça pouvait durer une heure, puis il n'y avait personne dans la maison avec l'enfant. C'est comme ça les enfants ont été élevés. Bon, peut-être que c'était pas optimal, mais de nos jours, on se met tellement de pression.
Et de la surprotection. Qu'à un moment donné, ça se peut que ça influence à peu près toute notre vie. Là.
Ça devient très exigeant. Donc, à la maison, c'est très exigeant. Au travail, c'est très exigeant. Après ça, au niveau personnel aussi, on se met de la pression. Il faut être en forme, être capable de courir 10
km.
Ouais. Aller en voyage chaque année.
Ouais, ça faut être capable aussi financièrement.
Oui.
Merci, bonne fin de semaine.
Bonne fin de semaine.